Alors, avant de lire notre passage, je voulais vous raconter une petite histoire. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi et si parfois ça vous arrive d'avoir de la peine à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais imaginons que vous ayez une belle voiture et que vous la prêtiez à un jeune ami qui vient d'avoir son permis et qui veut faire un week-end au vert, un peu comme j'ai fait le week-end dernier. Donc il part en Seine-et-Marne avec cette voiture et seulement voilà, après un repas bien arrosé, sur une route de la forêt de Fontainebleau, je connais bien parce que j'ai vécu 2 ans là-bas, cet ami veut éviter un sanglier qui lui coupe la priorité et il finit dans un chêne. Alors l'ami n'a rien, mais la voiture est détruite. Et vous imaginez bien que l'assurance ne va rien payer dans ces conditions-là. En plus, avec le taux d'alcoolémie, c'est mal parti. Hein. Que faire dans cette situation? Comment pardonner à cet ami? Et qui est-ce qui va payer les réparations? La voiture est pas en état de rouler. Si ce jeune se trouve encore aux études, qu'il n'a pas les moyens de payer une telle somme. Hein, comment résoudre ce problème tout en conservant la relation? Comment réparer la faute tout en conservant l'amitié? Alors je ne sais pas si vous verrez tout de suite le rapport entre cette histoire et le texte d'aujourd'hui, mais j'espère que d'ici la fin vous le comprendrez. Donc je vous invite à lire à partir du chapitre 52, le verset 13, donc dans Ésaïe 52-13 jusqu'à la fin du chapitre 53. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, et sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alors, jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu, et ce matin, donc j'ai un plan en 4 étapes, un peu logique, mais j'espère que vous arriverez à suivre facilement. On va pas prendre le texte dans l'ordre, mais j'espère qu'on va pouvoir tout expliquer dans le désordre, quand même, pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais avant tout, il faut d'abord se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque, parce que c'est un texte ancien. Et si on veut bien savoir de quoi il s'agit, il faut voir donc de quelle époque ça date. Et ce texte correspond à une période sombre de l'histoire du peuple d'Israël qui est en exil à Babylone à ce moment-là. Et la grande question qu'il y a derrière ce texte, c'est comment est-ce possible ? Comment le peuple élu, choisi par Dieu, en est-il arrivé là, en exil ? Si on réfléchit un peu à l'histoire de ce peuple, on peut se dire, mais après tout, c'est Dieu qui a libéré ce peuple de l'esclavage, qui l'a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui a pris soin de son peuple dans le désert, qui l'a nourri, qui l'a conduit pendant des années. C'est Dieu qui a donné à son peuple sa loi, qui a même habité au milieu de lui, dans le tabernacle. Et c'est encore Dieu qui a fait entrer ce peuple au pays de Canaan, la terre promise, qui lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, pour qu'il puisse en prendre possession. Alors comment ce peuple choisi et béni par Dieu peut se retrouver chassé loin de son pays comme ça? Alors c'est parce qu'il y avait un aspect conditionnel en fait dans la relation entre ce peuple et Dieu. Il y avait dans la loi de Moïse en fait des choses très claires qui disaient que tant que le peuple obéit à Dieu, il va recevoir des bénédictions. Mais si au contraire le peuple désobéit à Dieu, alors Dieu lui enverra des malédictions. Et il y avait une sorte de gradation dans les malédictions. Plus cette désobéissance était prolongée, plus les gens s'endurcissaient dans le péché et plus la sanction devenait grave en fait. Et l'exil faisait partie de ces sanctions que Dieu avait prévues dans la loi, qu'il avait annoncées à son peuple, en cas de désobéissance prolongée. Donc si les Juifs se trouvent exilés de force à Babylone à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont péché. Ils se sont détournés du vrai Dieu pour servir des idoles, et ils ont accumulé les péchés. Et c'est ça qui est incroyable quand on y pense, c'est que alors que le peuple subit à Babylone la faute pour la punition pour ses fautes contre Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu lui envoie des promesses de pardon et de restauration par l'intermédiaire d'Ésaïe. Alors en fait, ces promesses, elles datent peut-être un peu d'avant l'exil, mais elles concernent quand même cette période de l'exil. Et on voit encore une fois, alors que Dieu aurait toutes les raisons de détruire son peuple rebelle, ingrat, endurci, Dieu annonce qu'il va intervenir en faveur de ce peuple, qu'il va lui pardonner, qu'il va le rétablir. Et dans ces promesses, on voit la venue annoncée d'un personnage mystérieux, le serviteur de l'Éternel. Et dans le livre d'Ésaïe, on trouve 4 poèmes qui décrivent en fait la personne et l'œuvre de ce serviteur de l'Éternel promis. Donc on appelle ça les 4 chants du serviteur. Il y en a au chapitre 42, 49, 50. Et ici, nous, donc on a le 4e et dernier chant du serviteur qui nous parle donc de l'intervention de Dieu qu'il a promis pour faire du bien à son peuple. Et donc dans cette partie du portrait qu'on a ici maintenant, on voit en particulier les souffrances de ce serviteur et l'achèvement de sa mission. C'est un peu le couronnement de son œuvre. Il faut bien voir que c'est une prophétie prédictive. L'Éternel annonce à l'avance ce qu'il va accomplir. Alors qu'est-ce qui est annoncé ici? Quels sont les faits qui sont prédits au sujet de ce serviteur? On voit au verset 2 qu'il grandira devant Dieu comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Alors c'est du langage poétique, c'est un petit peu énigmatique. Il sera pareil à celui face auquel on détourne la tête. On le méprisera. On ne fera aucun cas de lui. Moi, j'ai sauté quelques lignes, pardon. Il n'aura ni beauté ni splendeur propre à attirer les regards. Son aspect n'aura rien pour plaire. On voit aussi au verset 7 que la souffrance s'intensifie. Il sera maltraité, il sera humilié et il n'ouvrira pas la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il ne dira rien. Au verset suivant, il sera enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, personne ne s'inquiétera de son sort. Personne ne se souciera qu'il soit exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de son peuple. Donc on voit même ici la mort. Et enfin, verset 9, « Son tombeau sera mis parmi les méchants et sa tombe avec le riche, alors qu'il n'aura pas commis de violence et qu'il n'y aura pas eu de tromperie dans sa bouche. » On voit ici son innocence. Alors pour l'instant, cette intervention de Dieu, annoncée par Ésaïe, semble bien mystérieuse. Mettez-vous dans la peau d'un juif de l'époque qui lit ce texte. C'est pas évident de savoir ce qui va se passer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on réfléchisse un peu à notre situation à nous, devant Dieu. Parce que c'est vrai, même si on n'est pas des juifs, sous la loi de Moïse, on leur ressemble quand même bien un peu. Comme eux, on a reçu du Dieu qui nous a créé tellement de bienfaits durant notre vie. On a parlé de la joie, on pourrait faire la liste de ces bienfaits. Mais comme eux, nous avons aussi tendance à être rebelles à Dieu, ingrats, endurcis, bref, à être coupables vis-à-vis de ce Créateur. Nous méritons donc aussi, nous, le juste jugement de Dieu, d'être chassés loin de sa présence sainte. Et notre situation, elle pourrait sembler aussi désespérée que celle des Juifs qui sont en exil à Babylone. Mais ce serait sans compter l'amour et la grâce de Dieu qui nous fait à nous aussi des promesses. Et si cette intervention de Dieu pour le peuple d'Israël nous concernait nous aussi? Alors on a vu ces souffrances qui étaient prédites par Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, de notre point de vue de l'histoire, on sait bien sûr que ces souffrances ont été accomplies. Des siècles plus tard, longtemps après la mort de ce prophète Ésaïe, quelqu'un est né. Et cette personne, elle s'est reconnue dans le portrait de ces quatre chants du serviteur de l'Éternel. Elle s'y est même identifiée à tel point qu'elle en a fait un peu son plan de carrière. C'était son guide de mission. Alors cette personne, c'est Jésus, bien sûr. Jésus qui expliquera à ses disciples en Luc 22, 37. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Donc ça, c'est une portion de notre passage. Et Jésus dit encore, ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Et puis plus tard, dans le livre des Actes, on voit aussi Philippe qui rencontre un eunuque éthiopien en train de lire ce chapitre d'Ésaïe 53 et qui ne comprend pas non plus de quoi ça parle. Et je vous lis donc Actes 8, 34 à 35. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc ça, c'est que deux exemples, il y en a beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament qui nous montrent que ce serviteur prédit n'est autre que Jésus. Et donc si Jésus est ce serviteur promis par Dieu, comment est-ce qu'il accomplit la prédiction faite à son sujet ? Alors vous savez que Jésus est né humblement en Palestine, dans une étable, sans tambour ni trompette. Jésus, c'est le fils d'un charpentier qui grandit incognito dans un bled de province en Galilée. En fait, on n'a même aucune description physique de Jésus. Il y a des films qui montrent un personnage Jésus, mais on n'a aucune idée à quoi il ressemblait. Il ne paraît être ni beau ni impressionnant, d'après les évangiles. Et on voit qu'à la fin de sa vie, le monde entier semble être contre lui. Ses disciples l'abandonnent. Les chefs des Juifs qui ont comploté contre lui l'arrêtent et le livrent à l'occupant romain. Le peuple juif demande sa mort. On voit la foule dans son entier qui clame « Crucifie, crucifie-le !» Et durant son procès, Jésus garde étrangement le silence. Il ne cherche pas à se défendre. Son juge Pilate constate l'innocence de Jésus, mais il s'en lave les mains et il le condamne à mort. Puis les soldats romains le fouettent, se moquent de lui, le frappent et lui crachent au visage. Et enfin, Jésus est crucifié à Golgotha, entre deux brigands, lui le juste, parmi les méchants. Les passants continuent de se moquer de lui, de mépriser ce prétendu sauveur à l'agonie. Et après sa mort, on voit encore Joseph d'Arimathée, ce riche juif, qui dépose le corps de Jésus dans son propre tombeau. Enfin bref, Là aussi, on pourrait multiplier les parallèles, mais on voit clairement, si on lit d'un côté les récits des évangiles, et de l'autre les prédictions d'Ésaïe 53, c'est quand même étonnant de voir à quel point les parallèles sont nombreux et précis. Jésus est bel et bien le serviteur. Les souffrances de Jésus à la passion, elles sont bien l'accomplissement de cette ancienne prophétie. Alors qu'est-ce qu'il faut penser des 6 à 700 ans qui séparent les deux, cette prophétie et la venue de Jésus? Et en plus, Ésaïe 53, c'est qu'une seule des nombreuses prophéties qui parlent à l'avance de la venue du Messie. Une chose est sûre, c'est que Dieu a tenu sa promesse d'intervenir pour son peuple. Il a envoyé son serviteur. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième tour des élections départementales et je vous encourage à aller voter si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je peux pas. Hein. Je suis français de l'étranger, donc je n'ai pas le droit de vote, mais je m'y intéresse un peu quand même. Et c'est intéressant de regarder les affiches électorales parce qu'en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande photo avec des candidats qui sont bien à leur avantage, hein, qui sont bien habillés. Et tout est réfléchi hein, pour susciter la confiance, pour qu'on ait envie de voter pour eux, bien sûr. Mais en fait, on ne connaît pas grand-chose de ces candidats. Bon, il y a leur photo, il y a leur nom. On a des recommandations de parti, peut-être. On a quelques promesses qui constituent un programme, mais on pourrait se demander à quoi ressemblerait l'affiche de ce serviteur d'Ésaïe. Alors, bien sûr, il n'y aurait pas de photo ni de nom, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais imaginons qu'il a été élu, et puis qu'en fait, aujourd'hui, il se présente pour un deuxième mandat. Et à ce moment-là, donc, il n'y a toujours pas de photo, mais il y aura un nom, celui de Jésus, et aussi un parcours de vie. Et ça serait un peu original, puisque à côté de chaque promesse, il y aurait la réalisation. Et on se rendrait compte qu'en fait, il a appliqué tout son programme pendant son mandat. Et que non seulement Jésus a voulu tenir toutes les promesses qui ont été faites à son sujet, mais il a réussi à le faire. Et ça m'interroge sur ce à quoi on fait confiance, en fait. Des fois, on est prêt à faire confiance à des belles photos de gens qui sont finalement pas très connus. Et peut-être qu'on devrait plus faire confiance aux réalisations de Jésus dont on n'a pas la photo, mais qui est beaucoup plus fiable peut-être que certaines personnes. Alors ce matin, vous êtes peut-être sceptique par rapport à ces histoires de prophéties qui s'accompliraient. Peut-être vous vous dites, quoi, des faits prédits qui arrivent des siècles plus tard, ben, il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Il y a même des théologiens libéraux qui rejettent ça par principe. Une prophétie prédictive, c'est pas possible. Donc vous avez le droit d'être sceptique et je vous encourage simplement à creuser les choses, à voir pour vous-même. Et la meilleure façon de voir, c'est de lire la Bible, c'est de lire d'un côté ses prophéties dans les prophètes de l'Ancien Testament et ensuite les évangiles et de comparer les deux. Vous pouvez aussi enquêter sur l'histoire de ces textes pour voir comment est-ce qu'on arrive à les dater. Et une chose est sûre, c'est que si Dieu est le créateur du monde, qu'il est le maître de l'histoire, il n'a pas besoin de trucs pour que ça marche. Parce qu'une des preuves que Dieu donne en fait aux hommes de son existence, c'est justement l'accomplissement de ses paroles. Il n'y a que Dieu qui peut dire une chose et que la chose arrive des siècles plus tard. Donc pour nous qui sommes déjà croyants, je pense qu'il y a un encouragement à faire confiance à ce Dieu. Parce que si Dieu a parfaitement accompli ces paroles-ci, il va aussi accomplir les autres paroles qui restent. Et nous pouvons croire tout ce qu'il nous a promis, parce que ce Dieu vivant-là tiendra parole. Alors on a parlé de ces souffrances prédites par Dieu, on a vu que ces souffrances ont été accomplies en Jésus. Mais on peut se poser la question, et peut-être aujourd'hui c'est difficile à accepter, hein, pourquoi Jésus devait-il mourir finalement? Quel est le sens de toutes ces souffrances? Dieu a promis d'intervenir pour son peuple, d'accord, mais pourquoi faut-il que quelqu'un meure? À quoi ça rime? Et en fait, notre texte contient aussi l'explication. Il indique pas seulement les faits, mais il donne aussi leur sens. Et on comprend que si le serviteur de l'Éternel doit souffrir, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour d'autres. La clé du texte, elle se trouve dans les versets 10 à 11. On voit au verset 10, là, cette expression, un sacrifice de culpabilité. Et on comprend qu'il y a une substitution, hein, c'est un mot technique, mais disons il y a un échange entre le serviteur et beaucoup d'hommes. D'un côté, le serviteur est juste, il est innocent, mais il porte la faute d'autres personnes. Et de l'autre, il y a beaucoup d'hommes qui sont coupables, qui sont pécheurs, mais ils sont déclarés justes. Et le verset 11 résume un peu ce magnifique échange. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Et à la pause de midi, on examine en détail un peu le récit de la passion de Jésus et on a vu que Jésus a été condamné à mort, bien qu'il était innocent. On a vu que s'il n'a pas ouvert la bouche, s'il a accepté cette mort injuste, c'est parce qu'il avait une bonne raison. Il savait que c'était pas lui-même qu'il mourrait, mais que c'était pour beaucoup d'autres. Il savait qu'il portait les souffrances et les douleurs que d'autres méritaient. Il savait qu'il payait pour les transgressions et les fautes que beaucoup d'autres avaient commises. Il était bel et bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors cette notion de sacrifice, elle est peut-être difficile à comprendre pour nous. Ça nous semble un peu barbare ou étrange, mais peut-être qu'il faut revenir au système sacrificiel dans l'Ancienne Alliance. Où d'après la loi de Moïse, en fait, il y a de nombreux sacrifices qui étaient offerts tous les jours, donc ça faisait partie de la vie courante. Et ces sacrifices, en fait, c'était un symbole de la purification de nos péchés, des péchés des hommes devant Dieu. Parce que Dieu voulait enseigner son peuple en lui montrant que toute faute, tout péché contre lui était d'une extrême gravité. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire ce que le péché mérite, c'est la mort, en Romains 6, 23. Et le sacrifice nous montre que pour que la justice divine soit satisfaite, il faut que le pécheur subisse la mort. C'est aussi grave et sérieux que ça. Mais que dans sa grâce et son amour, Dieu avait donné un moyen d'expier certains péchés, de payer le prix de ces péchés. En fait, lors d'un sacrifice, il y avait un échange. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça se passait. Mais il y avait l'animal sans défaut qui venait et la personne qui avait péché, donc imaginons que c'est moi, elle posait sa main sur la tête de la victime et là, c'était déjà un symbole de transfert. Ma culpabilité est mise sur la tête de l'animal qui n'a rien fait. Et puis cet animal innocent, il était égorgé. Sa vie était sacrifiée à la place du pécheur, à la place de moi. Et on voit ainsi que Dieu manifestait à la fois sa justice. Le péché, c'est pas juste quelque chose qu'on peut effacer comme ça, comme si de rien n'était. Mais Dieu montrait aussi sa bonté, celle de pardonner aux hommes, malgré la gravité de leurs péchés. Alors bien sûr, tous ces sacrifices d'animaux, ils étaient très limités. Hein. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez ça. Déjà, il fallait les renouveler sans cesse, parce que si j'ai péché aujourd'hui, ben, demain je vais recommencer. Il faudra de nouveau que je sacrifie un animal. Puis dans l'histoire, on ne demandait pas tellement la vie non plus de l'agneau ou du bélier avant de le sacrifier. Il n'avait pas trop le choix. Hein. Puis on peut se demander aussi, mais après tout, est-ce que la vie d'un animal, elle vaut celle d'un être humain ? Il y a quand même une différence. Hein. C'est pour ça qu'on voit que ces sacrifices étaient que le signe, en attendant le sacrifice suprême de Jésus. Jésus, lui, c'était une victime humaine, c'était un substitut adéquat devant la justice divine, un homme pour un homme, pour un être humain. Jésus, il était une victime innocente, bien sûr, il fallait que la victime soit sans défaut. Parce que si Jésus était lui-même coupable, il paierait pour lui-même, il ne pourrait pas payer pour d'autres. Et enfin, Jésus, lui, était une victime consentante. On lui a demandé son avis, il était libre. Et c'est lui-même qui s'est offert en sacrifice à la croix. On voit qu'en Jésus, Dieu montre la gravité du péché qui mérite la mort. Sa justice doit être satisfaite. Mais en Jésus, Dieu montre aussi son amour pour le pécheur, parce que le pardon est offert. Et voici, enfin, l'intervention de Dieu pour son peuple. Dieu va régler le problème du péché de son peuple. Ce problème qui se trouve entre lui et le peuple, qui empêche la relation. Et comment est-ce qu'il va le faire ? Il va le faire en payant lui-même le prix, en subissant lui-même sa juste condamnation, en payant pour la voiture détruite, même si le coupable ne peut pas donner un centime. Le péché n'aura pas le dernier mot. Le peuple de Dieu ne sera pas détruit selon ses mérites, mais la grâce de Dieu triomphera. Car en Jésus se trouve le pardon et la réconciliation. Alors on a vu des souffrances prédites par Dieu, des souffrances accomplies en Jésus, des souffrances subies pour beaucoup. On peut se demander, et nous dans tout ça, hein, où sommes-nous dans cette prophétie et son accomplissement ? On voit dans notre texte que l'œuvre du serviteur ne profitera pas à tout le monde. On retrouve cette expression beaucoup, beaucoup d'hommes, mais on peut se demander qui se trouve derrière cette expression beaucoup. Alors d'abord, on constate que ce ne sont pas seulement des juifs, et heureusement pour nous, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juifs parmi nous ce matin. On voit au chapitre 52, verset 15, « Il purifiera beaucoup de nations ». Et les nations, c'est les non-juifs, en fait, dans la Bible. Donc, en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'être juif ou pas, d'appartenir à Israël ou non. Le critère déterminant, c'est de connaître Jésus, de croire en lui, de lui faire confiance. Et je vous lis dans la version du Semeur, le verset 11 du chapitre 53. C'est parce que beaucoup de gens le connaîtront que mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Parce que beaucoup de gens le connaîtront. Et plus tard, l'apôtre Paul écrira aux Romains, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Là, c'est de nouveau une citation de verset 1er. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dans Romains 10. C'est uniquement par la foi en la parole de Dieu qu'on bénéficie de l'œuvre du serviteur. C'est uniquement par la confiance en Jésus qu'on reçoit gratuitement le pardon de tous nos péchés. Et aujourd'hui, il faut bien constater que tout le monde ne reçoit pas ce message de la bonne nouvelle. C'est pourtant une bonne nouvelle, c'est pourtant quelque chose d'incroyable, mais bon, il y a peut-être des gens qui doutent que Jésus a existé, mais eux, ils n'ont pas beaucoup réfléchi aux preuves historiques. Mais il y a peut-être des gens qui croient que Jésus a réellement existé. Il veut bien croire qu'il a souffert, qu'il est mort. Mais il propose peut-être une autre explication, une autre lecture de ses souffrances. Et la passion de Jésus a été réexploitée de tellement de manières. Jésus à la croix, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une victime du pouvoir ? Est-ce que c'est un symbole de la lutte des classes ? Jésus à la croix, est-ce que c'est juste un exemple de non-violence ? Un modèle d'amour à imiter ? On voit qu'il ne suffit pas seulement de croire les faits, que Jésus a souffert, qu'il a été condamné, qu'il est mort. Il faut également croire leur signification, le sens de ces faits tels que Dieu nous le révèle dans la Bible. Et c'est par la foi seulement que la croix apparaît non comme une défaite, mais une victoire. C'est par la foi que les souffrances de Jésus, elles apparaissent non comme quelque chose de honteux, parce que la mort sur la croix, c'est quelque chose d'ignoble, mais quelque chose de glorieux. Parce que c'est l'intervention de Dieu pour son peuple. C'est par la foi qu'on peut voir la puissance de Dieu à travers la faiblesse de Jésus. C'est par la foi qu'on peut recevoir cette bonne nouvelle scandaleuse du pardon en Jésus. Il y a quelque chose, même peut-être de choquant, on dit comment je peux être pardonné ? Comment quelqu'un d'autre peut payer à ma place ? Et le même apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens 1, versets 21 et 23. Il a plu à Dieu, c'est le choix de Dieu, de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Nous, nous prêchons un Messie crucifié, donc Jésus, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Alors, si vous avez une adresse email, j'imagine que vous avez déjà dû recevoir un message du genre un richissime étranger est mort dans une catastrophe. Alors je ne vous donne pas les détails, mais vous voyez un peu le genre d'email. Et il laisse derrière lui une fortune colossale dans son héritage. Et après, bon, il y a des détails. Et là, donc la personne nous dit « J'ai besoin de votre aide pour transférer cette fortune dans un autre pays. » Blablabla. Et si vous m'aidez, vous aurez droit à une commission de tant de pourcents de la fortune. Alors vous faites le calcul dans votre tête, X millions d'euros, même si c'est 3%, ça fait déjà quelque chose. Le problème, c'est qu'avant de toucher quoi que ce soit, et moi j'ai étudié un peu la criminologie, donc je connais bien ce genre d'arnaque, en fait, il faut toujours avancer de l'argent. Soi-disant, il y a des frais de virement bancaire, des choses comme ça. Et donc, les victimes de ces arnaques, elles avancent de l'argent un petit peu, peut-être un petit peu plus, et elles reçoivent jamais rien en retour. On leur fait miroiter une fortune qui n'existe pas et dont ils ne profiteront jamais. Et quand ils comprennent qu'ils se sont fait avoir, en fait, il n'y a rien à faire, parce qu'ils peuvent en général pas récupérer l'argent. Alors, est-ce qu'il en est de même avec la mort de Jésus? Est-ce que la Bible, elle promet quelque chose d'inexistant? Est-ce qu'il faut d'abord donner quelque chose en échange pour bénéficier du pardon de Dieu? Alors non, bien au contraire, c'est pas un canular que je suis en train de vous raconter ce matin. C'est fondé sur des faits vérifiables. On a de nombreux témoignages dans la Bible, des textes historiques. Et pour recevoir ce pardon en Jésus, il suffit de venir les mains vides, sans rien apporter. Il ne faut pas d'abord devenir membre de l'Église ici et payer votre cotisation. Alors ça peut sembler peut-être presque trop gros pour être vrai, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu, pas des hommes. Peut-être encore. On a été déçus par la nature humaine, mais il faut laisser Dieu être Dieu. Par la foi, chacun peut se confier dans l'œuvre de Jésus et s'approcher de Dieu tel qu'il est. Et ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous supplie d'accepter ce pardon de Dieu. Il vous suffit de reconnaître vos fautes devant Dieu et de croire au sacrifice de Jésus pour vous. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. C'est le seul chemin de salut qui existe. L'autre chemin, c'est d'accomplir parfaitement la loi de Dieu, mais personne n'y arrive. Et ce texte nous rappelle que c'est pas ce que nous faisons qui nous sauve. C'est ce que Dieu a accompli en Jésus. Il nous dit aussi qu'il n'y a que deux alternatives, en fait. Soit Jésus a payé pour vous, soit vous devrez payer vous-même un jour. Soit Jésus a subi la mort à votre place, soit la mort éternelle loin de Dieu vous attend encore. Mais si comme moi vous avez déjà mis votre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, alors vous pouvez vous approprier avec moi les paroles de ce quatrième chant du serviteur, et des fois ça peut être intéressant en méditant les paroles de changer les pronoms personnels pour les appliquer à nous-mêmes. Et si on relit par exemple les versets 4 et 5, on peut dire « Pourtant, ce sont mes souffrances que Jésus a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et moi, j'ai considéré Jésus comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de mes transgressions, brisé à cause de mes fautes. La punition qui me donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que je suis guéri. » Et tous ensemble, on l'a déjà fait par nos chants, mais avec la communauté des croyants, on peut exprimer notre reconnaissance à Jésus. On peut reprendre le cantique de l'agneau qu'on trouve dans Apocalypse 5, qui nous dit « Tu es digne, Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On a parlé que Jésus était roi, et nous aussi nous régnerons avec lui. Alors en conclusion, je reconnais qu'on n'a pas épuisé les richesses d'Ésaïe 53 ce matin, mais j'espère que j'en ai dit assez pour vous montrer la gloire, la grâce de Dieu en Jésus. Et peut-être d'ici le week-end de Pâques, je vous invite à relire ce texte d'Ésaïe 53, en méditant sur ces vérités. D'abord, ces souffrances ont été prédites par Dieu. Le prophète Ésaïe a annoncé la venue du serviteur plus de 600 ans à l'avance. Puis ces souffrances ont été accomplies en Jésus. Jésus est le serviteur qui vient de la part de Dieu pour remplir sa mission. En fait, ces souffrances, elles ont été subies pour beaucoup. Jésus est mort en sacrifice à la croix pour expier les fautes de beaucoup d'hommes. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez accepté ces souffrances pour vous? C'est par la foi que l'on reçoit ce pardon gratuit en Jésus, grâce à l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous révèle son serviteur Jésus. Joyeuse Pâques à chacun.